20% de notre alimentation vient aujourd'hui de l'étranger. Ça a quasiment doublé en 20 ans. Mais la France reste tout de même la première puissance agricole européenne avec 18% de la production des 27, loin devant l'Allemagne, par exemple, et l'Italie. Et en 2022, l'excédent commercial agroalimentaire fut un record pour notre pays depuis 2013. Ce n'est pas rien. Alors, on crie beaucoup à Roux, on l'entendait, sur les accords de libre-échange, en particulier en ce moment sur celui qui devrait être signé avec les pays d'Amérique latine. Mais Jean-Michel Schaeffer, est-ce que c'est forcément une concurrence déloyale quand on voit ces chiffres et ces résultats plutôt positifs de notre balance extérieure?
En tout cas, pour nous, dans le secteur de la volaille, mais dans également pour les collègues du bœuf, oui, pour nous, c'est de la concurrence déloyale. Alors, je voulais juste rappeler un chiffre. Aujourd'hui, on importe dans l'Union européenne 1 million de tonnes de blancs de poulet. Aujourd'hui, on importe à peu près un quart des blancs de poulet consommés dans l'Union européenne. Donc c'est des blancs de poulet qui sont produits en moyenne moitié prix que chez nous. Les trois grands pays dont on importe, c'est le Brésil. Oui. Le deuxième, c'est devenu l'Ukraine. Et après, le troisième, c'est la Thaïlande.
Mais pour...
on est quand même face à des conditions de production qui ne sont pas du tout les mêmes que nous en Europe. Nous, c'est la demande qu'on fait depuis des années.
Ça date quoi, c'est la taille des fermes, par exemple?
Non, c'est que quand on signe des accords, vu que nous, on a des normes très exigeantes de production en Europe et en France... On exige la réciprocité, c'est-à-dire que quand ils négocient des accords de libre-échange, qu'au moins, ils mettent tous les efforts, toutes les normes de production que nous, on doit mettre en œuvre, également dans les accords.
Antoine. En fait, la France a aussi des avantages. Elle va exporter davantage avec cet accord. Alors, c'est dans d'autres filières. C'est-à-dire qu'en fait, un accord de libre-échange, c'est un problème de concession réciproque. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les filières bovines, ovines, dans le sucre, l'éthanol, on peut anticiper que l'accord de libre-échange avec le Mercosur va donner lieu à une croissance très forte des importations européennes en provenance de ces pays et une baisse de production. Maintenant, on va aussi exporter davantage parce que les pays du Mercosur...
C'est quoi les pays du Mercosur, vous rappelez, pour les...
Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay.
Des énormes producteurs.
Et c'est un point important. La Bolivie va aussi peut-être les rejoindre bientôt. C'est un gros marché.
Et qu'est-ce qu'on leur exporte alors à ce moment-là, eux, en...
Alors, dans l'agroalimentaire, on va exporter davantage de vins et spiritueux et des produits laitiers.
Ah oui, donc c'est pas ce que produit monsieur, par exemple.
Et puis, c'est pas ce que produit monsieur. Oui. Et dans les produits industriels, on a aussi l'aéronautique, l'automobile, la pharmacie, la chimie. Donc, effectivement, ce sont ces concessions qui font un accord de libre-échange. Si on perdait sur tous les tableaux, on ne signerait pas cet accord.
Vu dans les accords du Mercosur, c'est des voitures thermiques. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même une petite schizophrénie européenne. Alors, est-ce qu'on doit sacrifier quelque chose d'aussi essentiel que l'agriculture et d'aussi structurant? En fait, dans les accords de libre-échange, l'idée, c'est qu'on envoie des choses avec une forte valeur ajoutée. Et dans l'autre sens, on récupère des choses avec une faible valeur ajoutée. Mais notre alimentation, à nous, elle a une plus forte valeur ajoutée. Alors, est-ce qu'on doit sacrifier...
Grâce aux normes et à tous ces cahiers de charges.
Grâce aux cahiers des charges, grâce à des années de travail. Est-ce qu'on doit sacrifier tout l'investissement qui a été fait dans nos filières agricoles pour par exemple... Enfin, je sais que c'est contre-intuitif de dire ça, mais nos utilisations de phytosanitaires, par exemple, sont infiniment inférieures.
Les phytosanitaires, c'est
les pesticides. Pour faire simple, par exemple, on sait que le maïs brésilien qui pourrait arriver en gros contingent est produit avec des phytosanitaires qui sont interdits depuis 30 ans en Europe.
On a été gagnant dans certaines filières et perdant dans d'autres. Alors, ça dépend le critère que vous prenez, mais si c'est effectivement un accroissement de l'activité dans les filières, je crois que, par exemple...
Et sur l'agriculture.
L'agriculture,
sur la filière porcine, sur la filière des volailles, je ne suis pas sûr qu'on n'en ait pas profité. Par contre, il y aura d'autres filières, alors je ne connais pas le détail, où il y aura effectivement plus de difficultés. Donc c'est toujours la même chose avec ces accords de libre-échange. On a signé un accord avec la Nouvelle-Zélande récemment, ça n'a pas fait de bruit. On avait en fait des garanties, on avait un certain nombre de protections dans l'agriculture. Et effectivement, ça a permis de faire passer l'accord avec des clauses de soutenabilité, avec des clauses sociales. Et c'était un accord qui maintenant est une référence en la matière.
Mais il y a beaucoup d'inquiétudes sur la viande bovine, par exemple. Sur la viande bovine, il y a des limites qui ont été mises pour les importations. C'est-à-dire qu'on a eu un embryon de clause miroir, plutôt. C'est-à-dire qu'on n'importe pas chez nous ce qu'on ne veut pas produire ici. Donc, par exemple, sur les antibiotiques sur le bétail, dans le CETA, il y avait des clauses. Ce qui fait qu'en fait, on a importé très très peu de bœuf du CETA. J'avais fait le calcul, c'était ridicule. C'était quelque chose comme moins de 100 équivalents carcasses sur un an. Donc autant dire, enfin, 100 vaches, c'est-à-dire quasiment rien. Et ça a été dans un premier temps plutôt favorable pour les produits laitiers. Alors ça, c'est à nuancer parce que visiblement, les nouvelles études sont un peu moins bonnes. Mais on en avait profité à ce moment-là.
Mais par contre, exemple, sur la viande d'agneau, les Néo-Zélandais maintenant aujourd'hui concèdent, ont tellement implémenté de mesures environnementales en Nouvelle-Zélande que leur capacité de production a été fortement réduite par ces mesures environnementales. Donc je pense que l'impact va être pas trop élevé. Je voudrais bien dire que moi je ne suis pas là pour faire des recommandations politiques, je suis là pour juste expliquer les effets des accords de libre-échange, c'est-à-dire effectivement il y a des effets qui sont négatifs et puis d'autres effets qui sont positifs.
Jean-Michel, le blé à 75%, la volaille à 42%.
Le blé dur, celui des pâtes.
Pardon, vous avez raison de préciser, la volaille, les fruits à 37% ou à 30, les légumes à 33% et le bœuf à 21%.
Parce que c'est intéressant de le prendre. Le blé dur, on est des grands producteurs de blé dur. Oui. En fait, on n'importe pas le blé dur, on importe les pâtes. Parce qu'on a le blé, on l'exporte en Italie, il est transformé en pâtes en Italie parce qu'on n'a plus la structure.
Parce qu'on ne sait pas faire.
Le désarmement industriel, c'est ça. Oui. Les volailles.
Donc on a la matière première.
On la vend en Italie, qui la transforme en pâtes et qui nous la ramène. Les volailles, Jean-Michel Schaeffer en a parlé. Le beurre, ça veut dire quelque chose d'intéressant. On est encore de très grands producteurs de lait, mais notre lait n'est pas assez gras. Donc on exporte de la poudre de lait et en échange, on importe du beurre parce qu'on est des gros consommateurs de beurre. Les légumes frais. Alors ça, c'est intéressant. On a détruit nos filières. Elles sont dans des impasses techniques, c'est-à-dire que la plupart d'entre elles n'ont plus de quoi traiter les cultures alors que c'est permis ailleurs en Europe. Le coût du travail en France pour le maraîchage et l'arboriculture est énorme. Il est 45% plus élevé qu'aux Pays-Bas. Ça veut dire qu'on part avec des bottes de plomb. Et donc, en fait, nos filières de légumes, elles ont été détruites par nos propres boulets auto-infligés. Et le bœuf, c'est intéressant parce que c'est la même chose que le blé dur. On a les veaux. On ne les engraisse pas en France. Ils partent en Italie ou en Espagne, on les engraisse et on les ramène parce qu'on a détruit nos abattoirs et nos filières de transformation.
Je crois que c'est difficile. En plus, il y a un problème effectivement de prix. Les prix qui sont bas, ça a aussi des
avantages. Par rapport au pouvoir d'achat et à l'inflation.
C'est un vrai problème. C'est un problème politique qui est complexe. Je voudrais dire aussi que les distorsions de concurrence, en fait, le gros problème aujourd'hui, c'est que normalement, on avait une politique agricole commune et qu'il y a eu une espèce de renationalisation de la politique agricole qui n'est plus commune. Et en fait, il y a des distorsions de concurrence à l'intérieur du marché unique, puisque, par exemple, il n'y a pas les mêmes normes à l'intérieur du marché unique. Et donc ça, c'est un gros problème qui pèse beaucoup sur ce qu'on vient de démontrer.
Est-ce que ça veut dire qu'il faut plusieurs titres? Déjà parce qu'on ne fait pas très attention à l'origine, et l'étiquetage européen ne nous y aide pas. C'est-à-dire qu'un poulet qui vient, par exemple, d'Ukraine ou du Brésil, à partir du moment où il est transformé en Europe, il prend la nationalité de l'endroit où il est transformé. Donc ici, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un nugget qui vous apparaît comme néerlandais, alors qu'en fait, il vient de l'autre bout du monde. Okay. Là, on a un problème et les citoyens devraient s'en alerter. On a aussi un autre problème, c'est qu'il faut considérer que le poulet d'entrée de gamme français, il est de toute façon meilleur que tous les autres poulets d'entrée de gamme du monde.
Il faut le dire.
Et on n'en veut pas chez nous. C'est-à-dire que dès que vous avez l'intention de monter un poulailler pour fournir ce poulet-là au marché français, qui serait quand même meilleur qu'un poulet importé, quoi qu'il en soit et toutes choses égales par ailleurs, eh bien, il est impossible à monter ce poulailler parce que les riverains n'en veulent pas, parce que les associations écologistes n'en veulent pas. Donc en fait, on est aussi dans cette schizophrénie-là. C'est qu'on ne veut pas produire chez nous et on importe le pire. Donc pour reprendre le slogan à la mode, on marche sur la tête.
Effectivement, on est schizophrénique, mais c'est vrai qu'on a envie, comme vous le disiez tout à l'heure, de manger un bon poulet, même s'il est cher le dimanche. Mais on n'a pas envie, généralement, de faire de la restauration de tous les jours avec des produits qui sont
très chers. Donc on doit être vigilant.
Mais la traçabilité complète, ce qui est un problème qui est très compliqué, parce qu'il y a d'autres problèmes aussi liés à la déforestation, liés, etc.